Alors, sur la question du changement de paradigme, nous avons aussi la chance d'accueillir Aline Azan et son intervention, c'est les enfants au cœur de l'urgence climatique. Merci Adeline.
Voilà, merci. Merci à Bruno Jarry, merci surtout à la ville d'Issy-les-Moulineaux pour tout ce qu'elle fait, puisque ça a été dit ce matin, mais je le rappelle, Issy-les-Moulineaux a été une des premières villes, il y a un peu plus de 20 ans, à devenir ville amie des enfants. Je voulais saluer, bien sûr, l'adjoint au maire Alain Lévy, dont je connais vraiment l'implication sur toutes ces questions depuis de nombreuses années. Et puis également saluer Geneviève Avenard, avec qui j'ai travaillé, moi, dans d'autres fonctions, et elle, à ce moment-là, comme défenseur des enfants. Alors, Bruno vous l'a pas dit, il a dit qu'il a rejoint l'UNICEF, mais je précise qu'il a rejoint l'UNICEF au conseil d'administration, puisque je lui ai proposé en juin dernier, justement, compte tenu du travail qu'il fait depuis très longtemps sur cette question, compte tenu aussi du travail que fait la ville d'Issy-les-Moulineaux et des relations exceptionnelles qui ont été tissées pendant toutes ces années entre la ville et l'UNICEF France, de bien vouloir rejoindre le conseil d'administration en tant que personnalité qualifiée. Il y est donc depuis le mois de juin. Nous, on en est ravis et j'espère qu'il en est ravi également. Alors, on m'a demandé de parler effectivement l'enjeu climatique pour les enfants, et j'ai été ravie de ce choix parce que c'est évidemment, comme tout le monde d'ailleurs, hein, toutes les associations, tous les décideurs qui s'occupent des enfants, c'est évidemment une question absolument, absolument cruciale. Nous l'explorons et nous l'expertisons depuis plusieurs années maintenant à l'UNICEF. Nous en avons fait une priorité d'ailleurs l'année dernière. Nous avons fait d'ailleurs notre Assemblée générale de 2025 sur ce sujet du climat, de l'environnement et de l'urgence climatique. Donc c'est dire à quel point ce sujet nous est important et à quel point dans la société il est important. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vais quand même vous donner 3-4 chiffres au cours de mon intervention. Le premier, c'est que actuellement, donc déjà, 1 milliard d'enfants sur 2,4 vivent déjà dans des zones à risque extrêmement élevées au niveau climatique. Ça veut dire presque la moitié des enfants déjà vivent dans des zones qui sont à risque. Et même dans les pays qui sont des pays riches avec des infrastructures dites solides, enfin qui sont solides, comme la France, j'y reviendrai tout à l'heure, les conséquences sont déjà plus que visibles. Elles sont là, c'est urgent et les enfants sont en danger. Alors face à cette réalité, je pense que c'est évidemment pour ça que nous sommes là aujourd'hui, notre responsabilité, elle est collective, et pour nous, elle se situe à deux niveaux. D'abord, protéger l'ensemble des enfants des impacts actuels, et puis également, et c'est ce que fait Issy-les-Moulineaux, et c'est ce qui vient d'être indiqué sur un certain nombre de territoires, et c'est ce qui va être précisé dans les tables rondes de cet après-midi, c'est vraiment adapter nos territoires aux enjeux climatiques pour les enfants, pour les protéger maintenant et pour les protéger demain. Donc c'est cette articulation globale ou locale que je vais essayer d'explorer en tenant mon temps de parole. Il est midi moins 20, donc j'ai jusqu'à midi 10, c'est bon? D'accord. Alors, je vous le disais, les impacts climatiques sur les enfants sont absolument cruciaux. Il faut absolument se débarrasser de l'idée, je sais que dans cette salle, elle ne doit pas être partagée, mais de l'idée qu'on peut entendre un peu partout, c'est que les enfants sont des adultes en devenir, ou pire, que les enfants sont des petits adultes. Et c'est complètement faux, c'est même dangereux de le prendre comme cela. Pourquoi ? Parce que justement, par rapport aux enjeux climatiques et aux dégâts du climat, les organismes des enfants sont beaucoup plus sensibles à la chaleur, à la déshydratation, aux maladies vectorielles, à la pollution de l'air. Leur système immunitaire, leur système respiratoire et leur cerveau sont encore en développement. Donc on ne peut pas dire simplement qu'ils sont plus petits. Non, à situation égale, on met un adulte et un enfant dans une situation, dans une rue même, tout simplement. Les dégâts sur l'enfant seront bien supérieurs aux dégâts sur l'adulte qui sera exactement à côté de lui. Donc c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête et surtout mettre dans la tête de nos décideurs. Alors je vous avais dit pas beaucoup de chiffres, mais quand même deux ou trois, parce que même moi, quand je les intègre, quand je les relis, je trouve que ça donne la chair de poule. Les enfants de moins de 5 ans, là je parle au niveau mondial, supportent près de 90% de la charge mondiale des maladies liées au changement climatique. 90%, c'est quand même assez terrifiant. Les enfants nés aujourd'hui sont susceptibles de faire face à 7 fois plus d'événements météorologiques extrêmes que leurs grands-parents, donc en 1960. Là aussi, c'est assez terrifiant. Et puis, 40% des enfants sont contraints de respirer un air extérieur toxique à des niveaux de pollution, parfois jugés plus de 7 fois supérieur au niveau de recommandation de l'OMS. Là aussi, ça fait froid dans le dos. Alors, c'est pourquoi nous disons à l'UNICEF, et je pense que tout le monde le dit d'ailleurs, hein, mais enfin, c'est vraiment un credo qu'on porte depuis des années, que la crise climatique, ça n'est pas seulement une crise environnementale, ça n'est pas seulement une crise de la santé, ça n'est pas seulement pour les enfants une crise de la protection ou de l'égalité, c'est vraiment une crise des droits de l'enfant, c'est-à-dire que c'est une crise pour tous les enfants et on y est. C'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 30 ans, on y est maintenant. Et ce qui nous indigne à l'UNICEF France, c'est que justement, alors que les enfants sont les plus grandes victimes du changement climatique, ces enfants sont les grands absents des politiques climatiques. On ne peut pas dire que le changement climatique ne soit pas pris en compte par les décideurs. Tous les décideurs, maintenant, ont conscience de cela. Après, la question de savoir s'ils mettent en face les moyens, etc., c'est une autre histoire. Mais enfin, la conscience, elle est réelle. Mais pourtant, dans la construction, justement, de politiques à mettre en face de ce risque, eh bien, on ne parle quasiment pas des enfants. On ignore leurs droits spécifiques, on ignore leurs besoins spécifiques dans les politiques d'investissement et d'action. Et ça, vraiment, il est temps de changer ce paradigme totalement et de dire, et c'est ce que nous disons aux ministres quand nous les rencontrons, mais là, on a un petit peu de mal à suivre le rythme depuis 18 mois. Mais on leur dit les enfants doivent être au cœur des négociations, de la planification, des financements et des solutions afin de s'assurer que justement leurs besoins spécifiques soient pris en compte, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas englobés dans les besoins de l'ensemble de la population, mais qu'il y ait vraiment un travail fléché sur ces enfants. C'est d'ailleurs une recommandation du Comité des droits de l'enfant de Genève qui le dit régulièrement et qui dit qu'il faut prioriser les besoins des enfants les plus vulnérables. Et là, évidemment, on y est. Alors, ce qu'on a fait à l'UNICEF là, ces dernières années, c'est qu'on a créé un groupe de jeunes engagés dans le climat, donc de, en gros, 16 à 22 ans. Et que justement, deux de ces jeunes ont été, on a réussi à les faire intégrer la délégation officielle à la COP de Belém au Brésil, qui vient de se terminer ces quelques jours. Et d'abord, c'est pour eux une expérience importante. Ils ont pu faire entendre leur voix. Et puis surtout, on a réussi, grâce à un lobbying, mais qui a duré, je dirais, 2 ans, à ce que la déclaration des jeunes sur le climat soit enfin signée par la France, car vous savez qu'elle existe depuis à peu près 10 ans. Elle a été signée de mémoire par une cinquantaine de pays, très peu de pays européens d'ailleurs, je crois qu'il y en a 4 ou 5, je ne les ai plus en tête, mais il y a 4 ou 5 pays européens seulement qui ont signé cette déclaration. Et enfin, la France l'a signée à Belém le 20 novembre, justement, la journée des enfants. Mais c'était un peu une exception parce que finalement, quand on lit les contributions, quand on évoque la participation des enfants, on s'aperçoit que le pourcentage des enfants qui sont pris en compte, les financements climat, par exemple, seulement 2,4% des financements climat sont adaptés aux besoins des enfants. Là aussi, c'est totalement scandaleux. Et alors, le dernier rapport de synthèse du GIEC, ils sont complets, hein, les rapports de synthèse du GIEC, mentionnent les enfants 2 fois. Donc, cette invisibilité politique, hein, ça, elle est évidente, elle est vraiment totalement en contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant, ça, il faut le savoir. Et donc, il faut se battre contre. Alors, même si on est au niveau des territoires, là, je voulais vous dire quelques mots sur l'action de l'UNICEF au niveau international, puisque vous savez que l'UNICEF est présent partout, dans tous les pays rattachés à l'ONU. Dans les pays riches, on a des comités nationaux qui collectent pour envoyer 75% d'ailleurs de notre contribution à l'UNICEF international, qui répartit, elle, sur les pays qui en ont le plus besoin. C'est pour ça qu'on est présent dans tous les pays et on adapte justement les besoins des pays. On adapte plutôt nos programmes aux besoins des pays. Alors, quand je dis nos programmes, c'est vraiment des programmes qui sont sur la durée, sur plusieurs années. Je vous donne seulement un exemple, mais pour que vous compreniez concrètement. Au Pakistan, justement, où les enfants sont particulièrement en danger compte tenu des effets du changement climatique, entre les inondations, la sécheresse, etc. Donc là, nous déployons des solutions durables et l'UNICEF, avec l'aide, bien sûr, d'autres associations et puis des autorités, installé 500 systèmes solaires dans les écoles, des centres de santé et des communautés de santé, et essaye d'assurer un accès à l'eau potable, à l'électricité et à des services de santé essentiels. Donc tout ça se fait évidemment en collaboration avec les autorités locales et les associations locales, mais donc c'est l'UNICEF qui apporte le plus de possibilités, à la fois de méthodologie financière et de construction, par exemple, des infrastructures. Et à l'international, nous structurons notre action sur, je dirais, trois piliers qui sont d'abord protéger les enfants, c'est-à-dire ce que je viens de dire, renforcer les services essentiels d'eau et d'assainissement, de santé maternelle et infantile, de nutrition par l'apport justement de sachets tout faits qui hyperprotéinés qui peuvent en tout cas réduire la malnutrition des enfants. Et puis nous, le deuxième axe, c'est nous préparons, c'est-à-dire que nous appuyons les communautés dans la réduction des risques de catastrophe et d'adaptation à la planification locale et aux risques climatiques. Dans des territoires, par exemple, comme Madagascar, nous avons créé des éco-villages pour faire en sorte que, justement, cette adaptation au changement climatique puisse se faire. Nous avons aidé à la construction, justement, d'écoles vertes, de façon à ce que les enfants puissent aller à l'école sans risquer leur santé. Et puis, et ça ne va pas vous étonner, parce que je suppose que dans la salle, tout le monde est absolument convaincu de l'importance de ce troisième axe, c'est engager, c'est-à-dire faire reconnaître les enfants comme des acteurs à part entière des politiques climatiques, en disant que leur participation n'est pas un supplément d'âme, n'est pas la cerise sur le gâteau, qu'elle est complètement nécessaire, elle est absolument pas négociable, et qu'elle est vraiment un levier pour l'efficacité. C'est pour ça que nous travaillons avec un groupe de jeunes engagés sur le climat, que nous les formons, que nous les envoyons aussi porter la bonne parole, mais localement, ça doit être le cas, évidemment, partout. Alors, je vais vous parler maintenant du contexte plus spécifiquement français, où, comme je disais tout à l'heure et comme on en est tous conscients ici, les effets du changement climatique, ils sont là, ils sont visibles, ils portent malheureusement déjà des conséquences dramatiques. On l'a tous vu d'ailleurs ces dernières années avec les canicules, et voir comment les canicules, non seulement elles sont désagréables pour tout le monde, mais elles sont en train de changer la vie des enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'au mois de juin et fin août, il y a eu des modifications de la fin des années scolaires dans certaines communes, ou bien report de la reprise de l'année scolaire dans certaines communes. Donc là, on est vraiment dans un changement, avec tout ce que ça veut dire aussi comme organisation pour les familles, qu'ils savent la veille ou l'avant-veille. Des fermetures de crèches ont été effectuées, des réaménagements d'horaires et l'annulation surtout d'activités extérieures. Alors, je ne dis pas du tout qu'il ne fallait pas le faire. Évidemment, il fallait le faire. Mais en même temps, ça veut dire à quel point les bâtiments scolaires ne sont pas équipés, parce qu'il va falloir un moment que, justement, même en cas de période caniculaire, les enfants puissent continuer à aller à l'école parce que les bâtiments scolaires auront été aménagés pour ce faire. Et quand on sait que les enfants, en plus, sont plus soumis à la déshydratation, à un risque de troubles du sommeil par la canicule, là aussi, il va falloir des adaptations du milieu scolaire. On a vu aussi cet été des feux de forêt qui ont conduit à des évacuations et à des impacts évidemment psychologiques sur les enfants. Quand on évacue une maison, quand on évacue un village, pour les adultes, c'est absolument traumatisant. Pour les enfants, ça l'est évidemment encore plus. On a vu des pénuries d'eau un peu partout, mais particulièrement évidemment dans les territoires ultramarins. Et même des pénuries d'eau prolongées. On l'a vu à Mayotte, territoire où c'est le plus dramatique. On l'a vu aussi en Guyane. On l'a vu même en Martinique et en Guadeloupe. Donc là, évidemment, pour les enfants, c'est une attaque directe à leur santé. Dégradation de toute façon de la qualité de l'eau et du coup, difficulté dans les écoles qui n'ont pas d'eau suffisante à donner aux enfants. Quand on sait sur la santé de l'enfant ce que ça a pour effet, c'est pas rien, c'est pas là non plus, c'est pas juste un petit mal-être. Ça altère durablement les systèmes respiratoires et neurologiques et ça les altère pour toute la vie, pas seulement pour un an ou deux. Évidemment, ça a été dit et redit, et nous, on en est bien conscients tous ici, mais il faut faire passer le message à l'extérieur parce que ce n'est pas forcément le cas. Ça touche évidemment beaucoup plus les enfants vivant dans des milieux modestes et dans des territoires défavorisés. Et évidemment, ça s'aggrave d'année en année. Alors, la réponse de l'UNICEF, je vous en ai parlé un petit peu au niveau international. Là, je voudrais vous en parler au niveau national. D'abord, c'est construire des villes résilientes au changement climatique à hauteur d'enfants. Je sais que la ville d'Issy les Moulineaux y travaille depuis longtemps. Et justement, nous, on agit alors auprès de l'ensemble des villes, par de la méthodologie, par de la transmission d'outils, mais on agit évidemment encore plus auprès de nos 300 villes amies des enfants, puisqu'on a un réseau de villes amies des enfants de 300 villes. Et là, on agit encore davantage, puisque le cahier des charges, justement, qui leur est transmis, est de plus en plus exigeant, ce qui est normal sur cette problématique de l'environnement. Et l'objectif, justement, c'est de, sur la mandature actuelle, que près d'un tiers des villes du réseau aient installé des capteurs de qualité de l'air autour des écoles, Et plus de 70, et c'est la réalité, ça, plus de 70 municipalités ont instauré des rues scolaires. Alors, il y a d'autres municipalités hors réseau Ville Amis des Enfants qui l'ont fait, hein, mais en tout cas, celles qui sont dans notre réseau l'ont fait. Et puis, beaucoup de villes, bien sûr, qui végétalisent les écoles pour lutter contre la chaleur. On a beaucoup de villes, ben, je vois qu'il y aura Lille et Lyon cet après-midi. Ce sont des villes, par exemple, qui ont entrepris très tôt la végétalisation des cours d'écoles qui sont devenues, de fait, en quelques années, de véritables îlots de fraîcheur. Notre activité, là, en ce moment, celle qu'on construit en ce moment, c'est justement de peser dans les programmes des candidats pour l'élection municipale de mars 2026, puisqu'on veut profiter évidemment de ce moment pour influencer les candidats. Et dans le cadre à la fois de notre réseau, là aussi, de Ville Amis des Enfants, mais bien au-delà, puisque nous allons transmettre un certain nombre d'engagements à tous les partis politiques, à tous les candidats, nous sommes en train de le faire. Et nous souhaitons que justement, à la fin de cette nouvelle mandature, c'est-à-dire en 2030, les villes disposent davantage d'espaces publics accessibles, vous en parliez, qui sont sûrs et qui sont inclusifs pour l'ensemble des enfants et qui soient conçus là aussi avec leur participation dans les documents de planification de la ville. Nous souhaitons que les villes aient intégré vraiment les besoins des enfants dans son plan d'adaptation climatique, qu'elles aient mis en œuvre des aménagements pour réduire les risques, je parlais des îlots de fraîcheur, végétalisation, etc., et puis aient adopté des mesures pour réduire la pollution dans le cadre de ZFE, de rénovation énergétique, et développer aussi des dispositifs éducatifs et des infrastructures favorisant la mobilité douce, ça rejoint ce que vous disiez, et la sensibilisation aux enjeux climatiques, impliquant vraiment à la fois les enfants et les parents dans la transition écologique. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup de moyens pour cela. Et puis, en quittant le niveau local, absolument indispensable, mais pas le seul, nous interpellons et nous allons continuer à le faire l'échelon national, c'est-à-dire les parlementaires, les ministres et leurs cabinets. Et nous prenons un certain nombre de mesures qui sont d'augmenter absolument les financements climatiques adaptés aux besoins des enfants, parce que ça, on a vraiment l'impression, globalement, on a l'impression que les enjeux climatiques, du fait peut-être d'urgence qui capte la vision de l'ensemble des problèmes, n'est plus présent dans le débat. En tout cas, il est beaucoup moins présent dans le débat que ça ne l'était encore il y a 3 ou 4 ans. Et nous, notre crainte, c'est que justement, dans les programmes municipaux, eh bien, ça le soit moins que ça ne l'était il y a 5 ans. Et qu'au niveau national, vous avez remarqué comme moi d'ailleurs, qu'on en parle beaucoup moins qu'il y a quelques années. Donc justement, nous, notre alerte auprès des décideurs nationaux, c'est donc augmenter les financements climatiques adaptés aux besoins des enfants, c'est intégrer systématiquement l'enfance dans les politiques climatiques françaises. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour dézoomer, c'est aussi intégrer les enfants dans l'ensemble des politiques, parce qu'on est en train de se rendre compte, là, petit à petit, je ne sais pas si vous en rendez compte, que des politiques qui avaient été annoncées il y a 2 ou 3 ans, comme par exemple le pacte des solidarités, avec un axe très très fort, grâce aux associations d'ailleurs, hein, parce que ce n'était pas le cas au départ, mais avec un axe très très fort sur les enfants, d'après les informations qu'on a ici ou là, un petit peu pas en sous-main, mais enfin off en tout cas, la priorité, en tout cas, la mise en haut du tableau de l'axe enfance est en train de disparaître. Donc là, j'attire l'attention de l'ensemble du secteur associatif et des élus pour vraiment là alerter les pouvoirs publics. Le pacte des solidarités, par exemple, ça fait 3 ans qu'il avait été annoncé avec un axe fort sur l'enfance. D'abord, depuis 3 3 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Pardon, ça fait 2 ans, c'était automne 2023. Donc, automne 2025, il ne s'est rien passé. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas constaté, que le Comité international de l'enfance ne s'est pas réuni depuis 2 ans. La dernière fois qu'il s'est réuni, c'était sous la présidence d'Elisabeth Borne, Premier ministre, qui avait annoncé d'ailleurs un certain nombre de choses, notamment sur le pacte des solidarités, sur l'observatoire de la non-scolarisation, etc. Plus rien là-dessus. Là aussi, quand on interpelle les cabinets ou les ministres, ben on a l'impression que finalement, personne ne sait très bien, puis que comme personne ne sait très bien s'il va être encore là dans quelques mois, ben on s'engage de moins en moins. Ça, c'est vraiment un sujet. Le troisième axe, bien sûr, c'est de renforcer la résilience des services essentiels pour l'enfance, la participation des enfants à l'élaboration des politiques qui les concernent sur les enjeux climatiques au niveau national, et puis, bien sûr, réduire l'empreinte environnementale française pour l'ensemble des habitants, mais en priorité pour les enfants. Donc, en conclusion, et je vais m'arrêter là, ce que je peux vous dire et ce que vous savez, mais ce sur quoi je veux insister, c'est que le changement climatique a déjà d'énormes conséquences négatives, mais voire dangereuses, sur les enfants, et que malheureusement, ça n'est que le début. Si on n'arrive pas à avoir des politiques très, très, très augmentées là-dessus, que ce que je vous disais sur les pénuries d'eau, les fermetures d'écoles, les fermetures de crèches, etc., si on ne fait rien, ça va, là aussi, se pérenniser, et que nous, notre impératif, il est très clair, c'est protéger les enfants aujourd'hui, c'est sûr, mais c'est construire des territoires, des villes, des agglomérations, des départements, des régions, qui soient résilients pour demain, et que profitons tous justement de ces élections municipales, dans l'immédiat, après il y a aussi tout le reste à faire pour des années, mais profitons de l'échéance des municipales de 2026 pour vraiment mettre ce défi en haut de la pile, parce que je crois que les villes ne peuvent plus attendre, et surtout les enfants sont en danger, et eux, ils peuvent encore moins attendre que les villes. Merci à vous.
Merci. Merci Adeline de cette intervention particulièrement percutante pour nous alerter sur les enjeux de prévention, d'éducation et de participation.